23 octobre. J'ai revu le banquier dont les conseils malheureux m'ont fait perdre plus d'une centaine de mille francs. Spiegelman est d'une courtoisie charmante. De véritables liens d'amitié nous unissent à présent, alors que jadis nous n'avions que des relations d'affaires. Peut-on expliquer ce changement par le sentiment qu'il a d'être en partie responsable de mes déboires? Je ne crois pas. Ce qu'il aime en moi, c'est mon mépris de l'argent. Il peut sembler étrange qu'un homme pour qui les affaires sont toute la vie aime quelqu'un pour qui justement elles ne sont rien. C'est pourtant ainsi, je suis pour lui l'homme sympathique de notre monde. Il a toujours vis-à-vis de moi un vague air de supériorité, même lorsqu'il se répand en amabilité extraordinaire, car il aime à s'abaisser devant autrui, non point à la manière d'un solliciteur ou d'un inférieur, mais avec l'air d'un homme qui s'incline devant des caprices ou des folies. Quand mon père me passait mes colères, il avait ce même air. Mais ce même air, si vous dites simplement que vous trouvez très beau le discours d'un ministre, a quelque chose de profondément agaçant. Il m'aime cependant. Mais quand, par exemple, il me fait une gentillesse, il se croit toujours obligé de dire que c'est pour moi, que d'habitude il ne le fait jamais, voulant ainsi, naïvement, donner de la valeur à son geste. Ce qui lui plaît en moi, c'est, je crois, qu'il me suppose très riche et que je ne le laisse pas paraître. En d'autres circonstances, une telle situation me gênerait. Il est toujours désagréable de sentir que l'on décevrait si l'on devait à connaître la vérité. Mais avec lui, je n'ai aucun scrupule et je ne m'inquiète pas de gagner ainsi son amitié par des avantages que je n'ai pas. Chaque fois qu'il vient, sa première parole est « Alors, monsieur Grandeville, avez-vous été content de la bourse ?» Mais il y a longtemps que je m'en désintéresse. « Très bien, monsieur Grandeville, c'est comme cela qu'on fait les meilleures affaires. » Je sens qu'il brûlerait de savoir le nom de mon agent de change, qui n'existe pas. Il est donc venu hier pour me demander, et cela sous forme de conseil, de rouvrir un compte chez lui. Il devrait pourtant comprendre qu'avec les choses de l'argent, on est facilement superstitieux. Il est des gens qui ne peuvent plus vivre dans une ville où ils ont été malheureux. Le nombre de villes fait qu'on a le loisir d'en choisir facilement une autre. Il en est de même, à mon avis, pour les banquiers. Mais cela, il ignore complètement. J'ai essayé de le lui faire comprendre, car je m'amuse un peu à le taquiner, mais en vain. Il a énuméré une foule de raisons, et chaque fois que je lui disais non, il en trouvait une autre. Tous les sentiments subtils lui échappent complètement. Au moment où il allait se retirer, Madeleine est arrivée. Elle lui a dit, sur ce ton qu'elle a avec les gens qui ne sont ni beaux, ni jeunes, ni d'une richesse excessive, « Bonsoir, monsieur Spiegelman !» Comme si elle s'adressait, à travers l'être qui se tenait devant elle, à une âme lointaine, à une âme sachant qu'elle savait combien il est difficile à deux êtres de se comprendre. Et Spiegelman lui a pris la main et, avec un sourire qui découvrait sa bouche édentée, qui donnait à son visage quelque chose de profondément bon, il lui a dit en me désignant d'un mouvement de son menton, « Il est gentil, c'est le meilleur des maris !» Car j'oubliais de dire que Spiegelman avait le petit travers d'aimer paternellement la vie intime des ménages, de se réjouir quand il pouvait faire un mariage entre des gens excessivement éloignés les uns des autres par l'âge, le caractère ou la situation. À ce moment, il devenait véritablement bon enfant et son air de supériorité se transformait en malice. 24 octobre. J'ai l'impression que la paix que je recherche est bien difficile à trouver. Qu'est-ce donc cette volonté de vivre tranquillement si je m'émeus pour la moindre chose? Je me suis retiré, mais qu'est-ce que cette retraite puisqu'un rien me froisse? Ce n'est pas parce qu'on ne participe pas à la vie qu'on est heureux. Je continue à subir des vexations. Autrui m'intéresse encore plus qu'au temps où je sortais. Plus je vieillis, plus je suis sensible à la méchanceté. Au commencement, j'ai eu l'impression de respirer le grand air. J'étais en effet bien au-dessus des intrigues, des ambitions, des faiblesses. Et voilà qu'à présent, dans l'ennui de ma vie monotone, sans avoir le courage de vivre, je participe quand même à toutes ces petitesses, mais cette fois sans connaître les satisfactions que la vie rapporte généralement. Je suis comme un vieillard dans mon trou. Je souffre indirectement plus que je ne souffrais directement. Que me reste-t-il si l'isolement ne m'apporte pas le calme? J'ai écarté tout le monde de moi parce que je croyais que ma résolution de vivre seule serait éternelle, car c'était, pensais-je, la plus grande des résolutions, celle qu'on ne prenait qu'une fois dans la vie. Or, je m'aperçois aujourd'hui qu'il en est de cette résolution sacrée comme des autres. Ma vie n'aura donc été qu'une succession d'abandons. Maintenant, il ne me reste plus rien à abandonner et j'en suis arrivé au point le plus élevé, celui peut-être qui m'apportera le plus de bonheur, celui où l'on s'aperçoit que le désir est une chaîne sans fin. La retraite est une vanité comme les autres. On commence par juger ses semblables de haut, puis de moins haut, puis de moins haut encore. Petit à petit, ils entrent dans votre existence, non point comme avant en adversaire ou en ami, mais avec des petites histoires. Ces petites histoires, dans votre désœuvrement, prennent l'importance qu'avaient les grandes jadis. On s'aperçoit brusquement qu'on ne vit pas du tout comme on l'a voulu, mais de la même manière qu'auparavant. 28 octobre. Au commencement, il m'arrivait de laisser sous-entendre que ma passion pour Madeleine était si belle qu'elle était favorisée des dieux. Par exemple, comptions-nous nous revoir le soir et la journée était-elle orageuse, ce qui faisait appréhender à Madeleine de sortir par la pluie, que je disais « Mais non, il ne pleuvra pas, il ne peut pas pleuvoir puisque nous avons rendez-vous. » Pourtant, à la suite d'une prédiction de ce genre que les événements avaient infirmée, je me garde à présent de faire allusion à cette protection céleste. J'ai oublié l'autre jour, en parlant de Curtis, de citer ce trait charmant que m'a raconté Madeleine. Au cours des promenades qu'il faisait parfois avec sa fille, il arrivait que celle-ci prononçât par légèreté une parole qui causait de la peine à son père. Il ne la relevait pas, mais le lendemain, quelquefois même plusieurs jours après, il répétait cette même parole, mais comme si elle venait de lui, si bien que sa fille riait de ce qu'elle se souvenait avoir dit. Il y a d'ailleurs une foule de choses que j'ai oublié de dire sur Curtis qui me reviennent continuellement à l'esprit, notamment cette manie qu'il a de s'intéresser aux petites occupations, aux détails sans importance de l'existence. Il tient d'une façon prodigieuse à ses habitudes et rien ne le trouble autant que l'inobservation de l'une d'elles. Comme ceux qui, après une existence mouvementée, se retirent, il éprouve un plaisir immense à flâner, à lire les pronostics et à s'assurer le lendemain de leur justesse, à lire des prévisions atmosphériques, des catalogues, à interroger ses domestiques pour savoir toutes les raisons qui ont amené le changement de place d'un objet. J'ai remarqué également combien il était peiné lorsqu'un événement met en vedette le monde auquel il a appartenu. De voir son entourage, les journaux, parler d'une chose qui, jadis, lui était familière, sans qu'on vienne lui demander son opinion, lui est très pénible. Sans dire un mot, il regarde alors les gens prendre parti avec ce sentiment désagréable que l'on ressent quand on n'est plus qualifié qu'autrui pour donner une opinion, mais que personne ne nous la demande. Il lui arrive pourtant de parler quand même, mais il ne tarde pas à s'apercevoir que 20 années se sont écoulées, que malgré ses efforts pour paraître renseigné, il se trouve des inconnus qui en savent plus long que lui. Alors que, jadis, sa susceptibilité était grande, à présent, rien ne lui paraît devoir mériter le moindre emportement. Il ressemble alors à ces hommes à qui la moindre observation d'un ami est intolérable et qui, pris à partie dans un lieu public, ne répondent pas et, comme s'ils étaient lassés d'avoir trop répondu, marquent sur leurs lèvres cette expression « Cela ne m'atteint pas ». Rien, en effet, ne l'atteint plus. Il s'applique pourtant à ne pas laisser supposer que cet air indifférent puisse être pris pour de la fierté. Il craint par-dessus tout de froisser. Il est toujours de l'avis de son interlocuteur, et s'il arrive qu'on lui manque un peu de respect, il ne s'en soucie même pas. Quand sa femme insistait pour qu'il la conduisît chez des gens qu'il avait connus, il se défendait en invoquant la bêtise de ces gens, leur vanité, car il jugeait déjà sans indulgence ce même monde dont l'éloignement avait fait naître cette sévérité. Depuis que sa femme est morte et sa fille mariée, Curtis vit seul. Ses plus délicieuses soirées, il les passe lorsqu'un ami musicien vient lui jouer ses morceaux préférés. Il fait dire alors qu'il n'est là pour personne et, enfermé avec le musicien, il écoute dans le recueillement sans jamais demander un autre morceau quand l'ami s'arrête, attendant simplement, avec un espoir qu'il cache, qu'on se remette à jouer, car il a un tel amour pour la musique que jamais il n'oserait demander quoi que ce fût, de peur de paraître profane et ignorer que l'inspiration est fugitive. Et si, ayant affaire à un musicien qui prend le silence pour de l'incompréhension et ne joue plus, malgré sa désillusion, Curtis se met à parler d'un air indifférent, sans paraître rien regretter. Une expression triste est toujours sur son visage, et ce qui amène des rires chez autrui anime à peine son regard. Il est curieux de remarquer combien il est choqué lorsque quelqu'un, à la suite d'un ennui, ne semble pas abattu et prend l'événement avec bonne humeur. Devant ses optimistes, il est perplexe. Je veux citer cette petite histoire que j'ai apprise par ma femme et qui me semble éclairer le caractère de cet homme. Un de ses amis lui avait dit un jour « Si vous n'avez rien à faire ce soir, je passerai vous prendre et nous irons au théâtre. » Curtis, n'étant pas libre, avait dû refuser, ce qui le plongea dans une sorte de mécontentement de soi. Le désir le plus insignifiant d'autrui était pour Curtis comme une obligation. À peine rentré, il ne sut comment se faire pardonner son refus, qui avait été pourtant accueilli par... Mais cela n'a aucune importance, je disais cela à tout hasard. D'ailleurs, même si vous aviez pu, je crois qu'au dernier moment, j'aurais été empêché. Le lendemain, il résolut de téléphoner à son ami pour l'inviter. Mais il ne téléphona pas. La peur d'apprendre qu'on avait été au théâtre sans lui l'en avait empêché. Car en ce cas, un autre malaise eût succédé au premier, celui que l'on éprouve quand on s'aperçoit que les gens font avec d'autres ce qu'ils avaient d'abord résolu de faire avec vous. Avant d'être ruiné, Curtis avait obligé bien des camarades. Lorsqu'il eut perdu la plus grosse partie de sa fortune, ce fut vers eux qu'il se tourna instinctivement. Mais ils l'évitèrent. Jeune homme, il avait vaguement rêvé de devenir un grand orateur. De ses aspirations, il garda toute sa vie l'expression « facilité de parole » qui revient encore aujourd'hui continuellement dans sa conversation. De même, de l'ingratitude de ses obligés, il a conservé une autre expression, celle-ci « il n'a pas voulu lui serrer la main ». Alors que, sans avoir été ruiné, il est facile de se rendre compte du peu de cas que font les hommes de la reconnaissance, c'est cette expérience qui a tout appris au père de Madeleine. Son jugement sur le monde est à la fois plus mauvais et moins mauvais qu'il devrait l'être, plus mauvais parce qu'il accuse ce monde d'être indirectement la cause de sa chute, et moins mauvais parce que, cette chute n'ayant pas existé, rien ne lui poussait à juger mal autrui. 4 novembre. Aujourd'hui, je me suis sentie là, triste, abattue, comme rarement je l'ai été. C'était quelque chose d'effrayant. Il me répugne de parler de moi, mais quand je pense à tous ces gens que je rencontre chaque jour, cela me fait du bien de les quitter pour entrer en moi-même. À ces moments de dépression, je crois que personne ne m'aime, que je suis un pauvre être qui ne peut rien vouloir, rien tenter. Il me semble que le monde entier s'est ligué contre moi. Il est terrible de vivre ainsi sans être aimé, de toujours tout donner, de se dévouer et de ne jamais rien recevoir en échange. Je ferai les plus grands sacrifices pour Madeleine et elle n'est pas heureuse. J'ai l'impression que je suis un isolé, une victime, que si je tombais gravement malade, je serais seul. Des amis me rendraient visite, mais pourquoi ? Parce qu'il faut qu'ils se meuvent, parce qu'il faut aller quelque part pour ne pas s'ennuyer, parce qu'au lieu d'aller ailleurs, ils viendraient me voir, ce qui ne manquerait pas d'intérêt, puisque je serais sur le point de mourir. J'aimerais mieux n'avoir personne autour de moi, n'être entouré que de silence, pour avoir seulement la certitude qu'il y a quelque part un être que j'aime et qui m'aime, un être pour lequel je suis tout. Je me suis assis à la tombée de la nuit dans mon bureau et j'ai pleuré. J'ai pleuré, je ne sais pas pourquoi. Ma vie n'a rien de terrible. Je n'ai jamais eu d'ambitions irréalisables. Je perds de l'argent, mais cela m'est égal. Ma vie n'a pas changé pour cela. Je ne m'ennuie pas particulièrement. Pourquoi ai-je pleuré alors? Il y a des spectacles qui me distraient pourtant. Hier soir, j'ai été au théâtre où l'on jouait une pièce excellente et après, Madeleine et moi, nous avons été souper. J'étais gai, je ne pensais à rien. C'est donc un homme normal qui est à ce point accablé en ce moment. Je ne suis pas neurasthénique ni sentimental. Je ne suis rien de particulier. D'où vient alors que je ressemble à ce point à une épave? Si on était entré en coup de vent au moment où je pleurais, je me serais dressé comme si rien n'était et j'eusse fait ce qu'on m'aurait proposé avec la gaieté nécessaire, comme si jamais je n'avais souffert. Ce n'est pourtant pas de la comédie, tout cela. Je ne me trompe pas. Je pleure, je souffre, et je ne peux rien contre moi-même, et je vis comme tout le monde. Je suis incapable d'envisager une autre existence. C'est surtout cela qui m'étonne, de pleurer ainsi, et tout de suite après, de ressembler au premier venu. J'ai les occupations de tout le monde, je vais au théâtre, je suis gai, et au fond de moi-même, il y a toujours quelque chose qui n'est pas heureux, quelque chose d'insatisfait. J'aime Madeleine, je suis jaloux d'elle, il me semble que ma vie serait terminée si elle venait à disparaître, et pourtant, en même temps, il y a quelque chose d'autre en moi. Dès que je suis seul, ce quelque chose s'éveille, plus rien ne reste, et je souffre. Je ne peux pas être seul et je déteste le monde. J'aime Madeleine et en même temps je ne l'aime pas. Il ne se passe pas une journée que je ne m'approche d'un camarade pour lui parler et que brusquement je ne fasse demi-tour. Ce qui me terrifie, c'est que je suis tout le temps malheureux et que tout le temps j'agis en homme heureux. Je ne prends jamais un bonheur entièrement. Mes joies, je les méprise au fond de moi-même. Il est vrai qu'à présent que j'ai un peu plus d'âge, je commence à les prendre telles qu'elles sont, sans trop penser qu'elles ne sont pas des joies. Mais pourtant, une voix s'élève en moi qui, à chaque pas, à chaque événement, me dit que ce pas et cet événement ne sont dus qu'aux circonstances. Malgré tout l'amour que j'ai pour Madeleine, elle n'est que la femme que j'ai rencontrée, alors que celle que j'aime, je ne peux pas la rencontrer, car il est impossible qu'au milieu du monde je la trouve, parce qu'elle n'est peut-être pas née ou qu'elle est morte depuis des siècles. Derrière tous mes actes, toutes mes passions, il y a ce sentiment que je suis placé au centre d'un monde qui n'est rien et que tout ce qui m'arrive n'est qu'une misérable caricature des événements que j'aurais dû vivre. Et en même temps que je pense à cela, je pense qu'une telle pensée est ridicule, qu'ailleurs, que jadis, que dans l'avenir, ce n'est pas mieux. Je n'ai aucune raison d'en vouloir à personne. C'est cela qui est pénible. Le bonheur est impossible et quand je pleure comme hier, ce n'est pas parce que je ne puis l'atteindre ni parce qu'il est impossible, c'est parce que je suis mécontent de ce que je possède, que je ne sais plus de quel côté me tourner pour éviter tous ces gens, que je souffre d'être attaché à un milieu qui n'est pas pire que les autres, que je sais ne pas être pire et qui pourtant me dégoûte. Il n'y a donc rien à faire, rien, rien, et c'est cela qui est la cause de tout. C'est de savoir que jamais je ne serai plus heureux qu'à présent, ni plus malheureux, que tout ce qui peut m'arriver me semblera sans intérêt, et que malgré cela je vis, je m'intéresse à la vie, j'aime, et je suis parfois content. 10 novembre. Après le dîner, alors que d'habitude, Madeleine éprouve un certain plaisir à prendre son café, à rester auprès du feu, elle s'est brusquement sentie triste, comme si tout ce qui fait le cours de sa vie était vain et n'avait aucune raison d'être. Elle me regarda. J'étais en train de chercher un journal parmi d'autres journaux et je pensais que c'est toujours ce qu'on cherche qui vient en dernier sous la main. Elle se leva et se rendit dans sa chambre. Mon humeur du moment fit que je ne m'en formalisais pas. Elle en fut terriblement dépitée, car c'est justement aux instants où elle croit vouloir être seule qu'elle désire que j'abandonne mes occupations pour lui parler avec mon cœur. « Il ne pense qu'à lui, il me préfère même la lecture. »« Quand elle est nerveuse, elle croit toujours qu'on lui préfère quelque chose. Elle alimente ainsi sa tristesse. Elle tire la force de souffrir de l'incompréhension que son entourage lui marque. Elle voudrait que, quand elle est triste, à la minute même on soit triste, et que, lorsqu'elle est joyeuse, on le soit également en même temps. Il ne lui vient pas à l'esprit que je pourrais lui reprocher une semblable inadaptation. À peine dans sa chambre, elle se met à pleurer. Au bout de quelques minutes, elle se domine et le visage refait revient auprès de moi. C'est, pense-t-elle, la marque de son originalité de cacher au monde ses peines, mais non point à la manière de ceux qui les dissimulent de telle façon qu'ils les laissent deviner, mais de les cacher réellement. C'est une comédie qui la grise de se défendre ainsi de montrer son cœur, d'être seule avec une douleur qu'elle masque, de tromper un interlocuteur, fait naître en elle un tel sentiment de grandeur qu'elle en éprouve une joie profonde. « Tu as trouvé ton journal ?» me demande-t-elle en revenant. « Oui, mais cela ne t'ennuie pas que je le lise ?» Cette question gêna Madeleine, car une marque d'intérêt rend d'un seul coup son attitude un peu ridicule. Lorsqu'on lui témoigne de la tendresse au moment où elle s'imagine être seule avec elle-même, elle est confuse. Pour rester seule, elle combat alors cette même tendresse dont le défaut était la cause de son attitude. Elle ne veut pas l'accepter. Prononcerait-on la parole même qu'elle avait attendue avec tant d'espoir qu'elle s'efforcerait de tout son être d'en changer le sens. Elle se rendrait désagréable, elle m'accuserait de sentimentalité. Ce qui manquait un instant avant et de trop un instant après. Vers 9 heures, la femme de chambre a annoncé François Joly. C'est un des rares hommes pour qui j'ai de l'estime. Il doit avoir une 50aine d'années et il n'a aucun attrait physique. Son honnêteté, sa droiture l'ont toujours écarté de la réussite. On se souvient peut-être qu'en 1912, une certaine Jeanne Hurtu se signala à l'attention du public par une série d'extravagances dont la dernière la conduisit sur les bancs d'une chambre correctionnelle. Cette femme de modeste extraction avait la réputation d'avoir le génie des affaires. Elle s'était mise en tête, voulant ainsi prouver sa bonne foi, de ne pas choisir un grand avocat, et le magistrat instructeur avait donc nommé un avocat d'office. Le hasard avait désigné Joly. Le procès plaidé, Madame Hurtu avait été condamnée, alors que, sur son insistance, sur celle de son amant, sur celle de ses parents, on avait fait pression sur Joly pour qu'il ne fît qu'une plaidoirie sans la moindre portée, l'innocence de l'inculpé devant éclater sans grossière défense. François s'était donc borné à réfuter certaines inexactitudes. En appel, elle eut recours à un autre avocat, célèbre celui-là, et elle fut acquittée. Joly, à la suite de cette aventure, devint la risée de ses collègues et vit sa carrière singulièrement compromise. Mais, loin de se plaindre, il adopta une attitude digne. Il s'associa avec un confrère et fonda un cabinet où il ne s'occupa plus que d'affaires sans grande importance. Joly est un peu misanthrope. Il voit partout le mal, mais, chose étrange, sauf dans les affaires que ses clients lui apportent et qu'il considère d'un œil professionnel. Il vit seul dans un triste appartement de la rue de Lille et, vis-à-vis de lui, je fais figure de bon vivant et d'ambitieux. En dehors de ses dossiers, sa seule passion est l'amitié. Elle n'est pas pour lui un accident, une sorte d'heureux hasard. Il choisit longuement le futur élu et, quand il lui parle, il est visible que c'est en prévision de ce qu'il pourrait advenir d'heureux par la suite. On se dévoue sincèrement pour lui. On n'hésite pas à lui rendre n'importe quel service. Personne n'abuse de sa bonté. Pourtant, elle a quelque chose de cette tristesse qui revêt les sentiments lorsqu'ils ne sont point profonds et purs. Car dans toutes ces protestations d'amitié, il y a toujours un détail qui signale qu'au fond, elles ne sont pas très solides. Joly venait me demander si je ne connaissais point un excellent spécialiste des maladies de cœur, sa mère ayant depuis quelques semaines des troubles cardiaques qui ne laissaient pas d'inquiéter son entourage. Il venait pourtant de quitter son grand ami Starbelos, à qui il n'avait soufflé mot de cette maladie. Il s'était réservé de me demander en premier ce renseignement pour que je l'écoutasse avec plus de gravité, car, malgré tout, il me trouve un peu léger dans ma façon de vivre. Joly s'acharne à vouloir rendre les gens semblables à ce qu'il désire qu'ils soient, et cette demande, par son importance, lui semblait devoir m'élever. Mais moi, qui en une autre circonstance me fusse montré plein de compassion, je ne sais pas pourquoi je répondis « Mais avec plaisir !» comme si on était venu m'inviter à quelque bal costumé. Cependant que je feuilletais un carnet d'adresses, Madeleine entama une conversation avec le visiteur. « Comment se fait-il que vous ne veniez pas plus souvent nous voir ? Vos visites nous font un si grand plaisir. Vous devriez déjeuner avec nous un jour. Il vaut mieux que nous fixions tout cela immédiatement, sans quoi nous ne le ferons jamais. » Madeleine se montrait plus aimable que de coutume avec Joly. Elle sait l'estime que j'ai pour lui, et dans le but de m'être désagréable, je sentis qu'elle voulait se montrer trop aimable. Elle ne peut admettre chez moi le moindre sentiment pour quelqu'un d'autre qu'elle. Lorsqu'elle devine que j'ai de l'amitié, du respect pour quelqu'un, sur le champ, elle exagère mes propres sentiments comme s'ils étaient les siens. En toutes circonstances, d'ailleurs, elle ne peut supporter un intérêt porté ailleurs que sur elle. Elle en fait la caricature. Pour se venger, elle devient alors plus amicale que celui qui a des raisons de l'être, et cela avec une innocence apparente, comme si elle eût été sincère et prête, si on lui eût fait le moindre reproche, à dire « Mais je ne te comprends plus. Tu me dis que c'est ton ami. C'est tout à fait naturel que je sois gentille avec lui. » Déjà, avant notre mariage, il en avait été de même. Elle aimait à jouer cette comédie sans la moindre pensée sincère pour la personne à qui elle témoignait tant d'affection, simplement parce que cette personne m'était chère. Elle continua ainsi tout le temps que Joly resta, si bien que ce dernier crut tout ce qu'elle lui dit et ne sut plus comment se montrer digne d'une telle sympathie. Mais lorsqu'il fut parti, je ne pus m'empêcher d'en faire le reproche à Madeleine. Sans doute, à cause de la nervosité dans laquelle elle se trouvait ce soir-là, Madeleine, au lieu de jouer l'innocence, de dire ce qu'elle disait habituellement dans ce cas, m'affirma qu'elle avait conquis mon ami pour me donner une leçon, pour que je visse comment j'étais, qu'elle n'avait rien fait d'elle-même, qu'elle m'avait simplement imitée.